Voici le dossier de Marie-France Martel.
Marie-France.
Oui, bonjour Martin.
Nouvelles accusations concernant le petit Lavoie se confirment là.
Ça a été porté officiellement aujourd'hui. Il a comparu sous 13 nouveaux chefs d'accusation qui sont liés au proxénétisme. Donc, ça concerne 3 plaignantes pour des gestes commis par Étienne Lavoie entre mai 2018 et janvier 2019, selon ce qu'on peut lire dans les dénonciations. Donc, c'est sensiblement la même période pour laquelle Étienne Lavoie fait déjà face à 14 chefs d'accusation pour 3 premières plaignantes. Donc, au total, il y a 6 femmes qui se disent victimes d'Étienne Lavoie. Entre autres, pour les 3 nouvelles plaignantes, il les aurait agressées sexuellement, dont une avec une arme. Il aurait bénéficié d'avantages matériels liés à la prostitution. Il aurait aussi, Étienne Lavoie, entravé la justice. Ce qu'on peut lire, c'est qu'il a demandé à une personne, d'essayer de convaincre une des plaignantes de retirer sa plainte contre lui. Ça, okay. C'est au mois de janvier dernier. Donc, maintenant, on parle de 27 chefs d'accusation déposés contre Étienne Lavoie en lien avec le proxénétisme et aussi le trafic de crack. Et ce matin, il y a une preuve volumineuse qui a été remise par le ministère public à la Défense, dont un album photo. Et on a pu discuter avec la procureure de la Couronne, Maître Marie-Ève Faneuf, qui, elle, s'est objectée à la remise en liberté d'Étienne Lavoie pour ce nouveau dossier. Donc, il n'est possiblement pas au bout de ses peines. On l'écoute là-dessus.
Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres plaignantes dans le futur. L'enquête n'est pas terminée. On est toujours en attente là, de certains éléments de preuve qui ont été demandés. À la prochaine date, on va fixer l'enquête préliminaire dans les 2 dossiers, selon ce qui a été discuté là, avec l'avocat de la Défense dans ce dossier-ci. Et il y aurait également là, une prise de position par l'accusé et son avocat relativement à la tenue d'une enquête sur remise en liberté pour le 2e dossier. Dans ce cas-ci, non, ça ne s'est pas passé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Et je vous rappelle, Martin, que pour les 3 premières plaignantes, Étienne Lavoie est détenu jusqu'à la fin des procédures. Le juge Conrad Chapdelaine qui avait dit, entre autres, que les crimes qu'on lui reproche consistent à exploiter des victimes fragiles et vulnérables qu'il dominait psychologiquement, physiquement et sexuellement. Donc, pour ces 3 nouvelles plaignantes, il faut refaire le même processus d'enquête sur remise en liberté. Donc, ça va être fixé.
Pourquoi? Oui.
Voilà, c'est comme ça qu'on procède.
Ah oui.
On y va dans ces deux.
Pourtant, dans les autres accusations, c'est clair qu'il reste derrière les barreaux.
Oui, tout à fait.
Mais question, Madame votre honneur, si à cette enquête sur remise en liberté, on décide de le remettre en liberté...
Ça serait surprenant.
Ça vient en confrontation avec la décision d'un autre juge pour l'autre enquête sur remise en liberté pour les autres accusations.
On s'entend là-dessus. On s'entend, donc...
Hey, c'est flyé, pareil.
Faudra voir, mais dans ce cas-ci, effectivement, bon, c'est ce qu'on
dit. Ça serait surprenant, là.
Tout à fait, bien sûr.
Ouais, mais des fois, les tribunaux nous surprennent. Des fois.
Mais bon, à suivre, donc, retour le 4 juin pour Étienne Lavoie devant la cour.
Michel Roy, son dossier était aussi inscrit au rôle.
Oui, Michel Roy, lui, il avait comparu en avril dernier pour être accusé d'homicide involontaire coupable de son enfant en janvier 2015 à Richemont. Et il avait déjà été reconnu coupable de cette accusation-là. Il avait été condamné à 12 ans de pénitencier pour avoir secoué violemment son enfant. Mais je vous rappelle que la Cour d'appel du Québec avait ordonné un 2e procès pour Michel Roy. Donc, on en est là maintenant parce qu'une nouvelle preuve médicale d'un neuropathologiste ontarien qui s'ajoute. Donc, la Cour d'appel dit 2e procès pour Michel Roy. Aujourd'hui, il revenait... Mais ça a été repoussé d'un mois parce que son avocat attend d'avoir une clarification pour un mandat de l'aide juridique. Donc, il veut savoir effectivement, bon, les technicalités liées à ce mandat-là.
Il va savoir s'il va être payé au montant de l'aide juridique ou à son montant à lui.
C'est ce qu'il faut décoder entre les lignes.
Ouais.
Le ministère public, Maître Claude Robitaille, a dit « Nous, on est prêts à procéder ». Et Michel Roy, il doit revenir le 21 juin prochain. Et ce qui a été évoqué, Martin, ce matin, c'est que on en a parlé ce matin avec Maître Célina Saint-François de cette décision de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Myers, qui fait en sorte qu'on doit procéder à une évaluation périodique d'un accusé qui est détenu avant son procès. En l'occurrence, Michel Roy, il est détenu avant son 2e procès.
Il y a tous les 90 jours max.
Donc, il pourrait devoir revenir pour justifier la détention actuelle. Donc, ça va être intéressant à suivre pour son retour devant le tribunal le 21 juin prochain.
Mais aussi,
qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Oui, mais aussi l'impact sur la quantité de gens qu'on va ramener comme ça à tout bout de champ à devoir comparaître pour être réévalué sur la nécessité des gardés détenus en attente de leur procès.
Oui. Et d'ailleurs, Martin, ça m'amène à te parler de ce qui se passe là-dessus parce que dans le district judiciaire de Saint-François, pas plus tard que ce matin, il y a eu des discussions en lien avec cette décision de la Cour suprême parce que ça fait en sorte que les autorités carcérales doivent demander au tribunal de tenir une audience aux 90 jours pour les accusés d'actes criminels et aux 30 jours pour les infractions mineures. Et bon, j'en ai discuté avec le procureur en chef adjoint dans les districts de Saint-François, Bedford et Mégantic, Maître André Capagnan. Ce qu'il me disait, c'est qu'il y a un rôle qui sera fait dès la semaine prochaine, un rôle devant la Cour supérieure avec les détenus qui sont concernés par cette décision, entre autres de la Cour suprême du Canada. Alors, je vais entendre ce qu'avait à nous dire Maître Capagnan là-dessus.
Et on va vérifier. Dans plusieurs cas, les accusés risquent de renoncer à la procédure et dans d'autres cas, ils pourront avoir une enquête complète. Et on verra là, avec les avocats exactement là, comment on va procéder dans ces dossiers-là. Mais je pense qu'on va avoir un rôle, probablement un rôle par mois concernant ces dossiers-là. Ce ne sera pas vraiment un casse-tête. C'est plus une obligation qui nous est imposée. Puis je pense que le but de ça, c'est de s'assurer que les gens ne purgent pas leur peine avant d'avoir obtenu un procès.
Parce qu'on le sait, Martin, donc les gens, parfois, ils doivent demeurer détenus lors de leur arrestation pour des raisons, entre autres, de sécurité et de protection du public. Mais la Cour suprême dit c'est exceptionnel, cette détention-là, et on doit la réviser de façon périodique. Donc, comme on le disait, aux 90 jours, dans le cas de Michel Roy, il faudra voir pour son dossier à lui comment ça va se traduire. Mais effectivement, ça va être de voir comment ça va, si on veut, encombrer, entre guillemets, où ça va occuper nos tribunaux, cette décision-là, entre autres ici dans le district.
Donc, déjà, on avait l'arrêt Jordan, là, il y a cet arrêt Myers.
L'arrêt Myers, qui prévoit cette détention périodique là, de réviser tout ça.
Oui. Juste un mot. Tu vas me parler d'un étudiant de Sherbrooke, là?
Oui.
Mais juste avant, petite parenthèse. Hier, là. Oh, je reviendrai. Parle-moi de l'étudiant là, qui mettait le feu. Là.
Oui. Chadrick Changa Henry, lui, il a plaidé coupable aujourd'hui d'avoir allumé volontairement des incendies dans deux appartements qu'il occupait. Dans un premier temps, ça se passe en décembre dernier. Il a mis le feu à des tuiles de plancher et un bureau de son logement des résidences de l'Université de Sherbrooke. Et lorsqu'il a été arrêté, Chadrick Changa Henry, ce qu'il a dit aux policiers, c'est qu'il était un général de l'armée. Il se disait capable d'avoir le pouvoir de les tuer. Donc, il a admis des menaces de mort aux policiers aujourd'hui également. Il a été remis en liberté et tout de suite après, il a recommencé, cette fois dans un logement du boulevard Jacques-Cartier. Il était avec deux colocataires, il le louait là. Et là, les colocataires constatent que Chadrick Changa Henry consomme beaucoup de cannabis, qu'il est souvent agité. Et là, finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a endommagé un banc de musculation avec un couteau. Il a percé l'espèce de cuir avec un couteau. Il a allumé des foyers d'incendie dans la salle de bain.
Tu es un pyromane, quoi?
On parle problématique, possiblement, de santé mentale dans
Mais
son cas.
Il y a
cas,
comme une évidence.
Parce qu'on parlait d'un... Il avait évoqué un défoulement pour lui. Donc, il y a un rapport présententiel qui a été demandé.
OK.
Justement pour dresser le portrait, le profil de cet individu-là.
Mais lui, il se prend pour le chef!
Visiblement, c'est ce qu'il a dit au policier.
Général.
Oui, que c'est un général de l'armée.
Okay.
Donc, voilà pour Chadrick.
Vraiment, lui, il croit à la réincarnation.
Changa Henry, bien, faudrait voir dans quel état, là, évidemment. Là,
non, je comprends. Ça,
ce qui va ressortir de tout ça, on comprend qu'il y a peut-être un contexte, là, parce qu'on parle de foyer
d'incendie. Il y a plus qu'un contexte, là.
Allumé partout. Ben, en fait, dans les électroménagers de la cuisine, salle de bain, entre autres, pour le deuxième épisode.
Oui.
Donc.
S'il n'avait pas été arrêté,
c'est
pas. Juste un petit mot. Le vaudeville, hier soir, au conseil municipal.
Oui.
Moi, là, de ce que je connais de Michel Arnois, de la Société d'histoire, c'est pas le genre à s'amener publiquement puis à péter un gasket. Hier, Michel Arnois en a surpris plus d'un en étant en beau joual, puis en s'en prenant, entre autres, à Evelyne Baudin.
Oui.
Puis qui dit, écoutez bien, là, on a l'impression, nous autres, au comité de toponymie, qu'on est une gang de misogynes. Et puis, Je le répète, là, mais me semble Michel Arnoy, ça représente la zénitude, c'est l'histoire, c'est un passionné, c'est un brain, c'est... Mais de le voir comme ça, je me suis dit, il y a quelqu'un qui l'a vraiment piqué au vif pour qu'il sorte comme ça, là.
Il parlait qu'Évelyne Baudin donnait des informations tendancieuses, tu sais, il avait des mots quand même assez forts.
Oui.
Ça a surpris un petit peu tout le monde à la période des questions des citoyens, parce que... Même Évelyne Baudin, bien sûr, qu'elle prenait l'attaque, là, les coups, là. Puis elle n'a pas pu répondre tout de suite, c'est revenu. Mais quand même, ça a été surprenant. Et surtout, tout le débat qui a duré une trentaine, quarantaine de minutes sur
Le comité de toponymie, la parité 50. Et puis quand on sait, là, si quelqu'un autour de la table avait eu un réveil matin, là, Hélène Dauphinet nous a dit en pleine face tantôt, elle, qui a présidé le comité de toponymie, que déjà... au sein du comité, les recommandations sont à 50-50 depuis l'ancienne administration.
Et l'affaire, Martin,
me semble que ça aurait été facile à dire hier.
Il y a des noms de rues là, qui ont été octroyés pour des femmes, mais
la rue
n'est
pas
encore faite. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas nommée physiquement. Elle est nommée, je veux dire, mais elle n'existe pas encore. Mais c'est sûr que ça a fait jaser. Puis là, M. Geng qui a voulu avoir un vote de confiance. Ses collègues qui ont dit non, M. Geng, nous,
on a-tu été beaucoup dans le niaisage quand même? Il a fallu que Michel Arnoy soit piqué au vif.
Oui.
Pour qu'il fasse cette sortie-là.
Ah oui, c'était très surprenant. Oui.
Mais bon.
Très émotif comme débat. Oui.
On aura l'occasion de s'en reparler, Mme Martel. À demain.